Je pense qu'on a tous des souvenirs un peu ennuyeux de d'après-midi photos avec un tonton, une grand-mère ou des parents qui nous montraient leurs photos de voyage et c'était souvent assez bavard et vraiment très ennuyeux.
Bon, écoute, quant à moi, franchement, je fais l'aveu et peut-être vous ferez la même aveu sur le chat pour que je me sente un peu moins seul. J'ai très probablement pris lors de mes voyages de ces photos souvenirs qui finalement devaient intéresser que moi.
Moi aussi, je te rassure, Ilan.
Bon, alors ça va,
On
on est deux. On est au moins deux.
est au moins deux. Non, parce qu'effectivement, photographier d'ailleurs, ça fait partie intégrante de la pratique photographique. C'est-à-dire que la photo, c'est aussi, à profonction aussi de figer un instant, un lieu. Et ça a une valeur de souvenir. La première image que je voulais montrer, c'est une image de 1854 de John Beasley Green, qui nous offre une vue du Nil, des rives du Nil, à Thèbes. En Égypte.
John Beasley Green, comme son nom l'indique pas forcément, était français, égyptologue et photographe. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, au début du 19e, à la suite des campagnes napoléoniennes, il y avait un véritable engouement pour l'Égypte et le déchiffrement des hiéroglyphes, quelques années plus tard, en 1824, a contribué justement à cette fascination.
Et oui. Et ces prises de vue de John Beasley Green, j'ai pas le même accent que toi, Ilan,
Ah bah,
ont
je l'ai
fait,
travaillé.
je vois ça, enfin j'entends, ont contribué à documenter, à alimenter cet engouement pour l'Égypte. On peut pas vraiment parler de photos souvenirs en l'occurrence, mais on peut parler, par contre, de photos de voyage, et ça va être mon propos d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui pousse un photographe à photographier l'ailleurs? Il y a donc les photos souvenirs, comme toi et moi on a pu faire. Mais il y a aussi, selon moi, trois pistes qu'on peut explorer. Aller découvrir un lieu et ses habitants, témoigner de la fuite, de l'exil, et en dernier lieu, quelque chose qui serait plus de l'ordre de la quête mémorielle.
Bah écoute, on va voir ça et on va commencer peut-être par la découverte d'un lieu parce que tu nous y invites. Allons-y.
Alors oui, moi je vais commencer par des photographes qui choisissent d'explorer un lieu, de le documenter, d'en révéler la quintessence. Alors ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut même être une maison. Et pour représenter ce mouvement, j'ai envie de vous parler du travail de la photographe française Claudine Doury, qui est membre de l'agence Vue et qui a écrit un livre qui s'appelle Amour. Alors je trouve que c'est un travail remarquable et puis je trouve ça assez génial de pouvoir parler d'amour sur les ondes du studio de Jimini.
Mais tout à fait.
Alors en 1989, Claudine Doury prend un atlas, parcourt les pages et elle tombe sur une carte de la Sibérie. Et dans l'Est sibérien, il y a un fleuve qui traverse une bonne partie de la Sibérie qui s'appelle le fleuve Amour. Alors elle est saisie par nom, elle est transportée par ce nom et elle décide d'y aller et de rencontrer les peuples autochtones qui sont les Nanaïs et les Houlches. Donc on a des exemples hein, sur les photographies de la vie de ces gens-là. Et ce qui est passionnant, moi, je trouve, dans le travail de Claudine Doury, dans ses voyages, c'est la rencontre qu'elle fait avec l'autre. L'autre avec un A majuscule. Hein, je pense que pour découvrir un lieu, pour le comprendre, pour le documenter, pour comprendre ses habitants, il ne faut pas y aller de façon expéditive. On ne fait pas du tourisme, on prend le temps, on voyage. On ne fait pas trois photos d'enfants qui sourient et puis on rentre. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de discuter avec les gens, qu'il faut comprendre leur mode de vie. Hein. La photo qu'on a là, par exemple, nous montre bien la façon de vivre de ces gens-là. Mais aussi comprendre ce qu'ils subissent, hein, ces peuples autochtones. La mondialisation, le réchauffement climatique, leurs vies sont bouleversées. Et donc, il faut vivre avec eux, partager. Hein. C'est l'importance de cette photographie-là. Et c'est aussi une autre chose qui me semble très, très importante. C'est de revenir le plus souvent possible, alors en fonction de ses moyens, etc., hein, sur les lieux, comme le fait Claudine Doury. Claudine Doury, elle reviendra en 97 et en 2008. Et elle nouera des liens, des relations avec les habitants de cette région du monde. Et elle reste assez longtemps, hein, quand elle est sur place. Donc, pour conclure un peu sur cette photo de voyage, et non pas photo de tourisme, il n'est pas nécessaire d'aller loin. On peut faire ça en France, etc. Mais par contre, il me paraît extrêmement important de retourner plusieurs fois sur les lieux, de prendre son temps, et de prendre surtout le temps de connaître les gens. Je crois que c'est la chose la plus primordiale, en fait.
Ouais. La question du temps et de prendre le temps, de toute façon, est une question qui devrait nous occuper tous.
Oui.
Donc ça, la découverte d'un lieu, mais parfois l'ailleurs, puisque c'est le sujet de ta chronique, rime aussi, et plus malheureusement, avec l'exil et le déracinement, et c'est le cas du deuxième photographe dont tu vas nous parler.
Oui, alors moi, je vais vous parler pour le second photographe dont je veux parler, c'est Josef Koudelka. Donc, il est né en Tchéquie, enfin, c'était la Tchécoslovaquie, même à l'époque, en 1938, et il devient photographe en 1967, de façon officielle, après avoir fait des études d'ingénieur. Mmh. Et en 1968, il y a le printemps de Prague, alors, petit rappel rapide, hein, la population pragoise, et plus largement la population tchécoslovaque, aspire à plus de liberté. Hein. La Tchécoslovaquie, c'est une république sœur de l'URSS, donc un régime assez dur, surtout à cette époque. Et en 68, il y a cette espèce de vent de liberté qui s'ouvre dans le monde, et les Tchèques aspirent à plus de liberté. Sauf que les Soviétiques envoient des chars d'assaut, c'est le printemps de Prague. Et il y a cette photo extrêmement célèbre de Josef Koudelka qui montre l'arrivée des chars soviétiques. Ouais. Et Koudelka, à cause de cette photo, et puis d'autres qu'il a fait sur l'invasion soviétique, doit fuir son pays.
Ouais. Il y a un autre Tchèque célèbre, parce que de Koudelka à Kundera, il n'y a qu'un pas, Tchèque lui aussi, donc, qui va raconter cet épisode et l'exil qui s'ensuit dans son livre le plus connu, qui est L'insoutenable légèreté de l'être, donc de Milan Kundera.
Oui, alors Koudelka s'enfuit, il se retrouve au Royaume-Uni, où il devient réfugié politique en 1970, et au même moment, il entre à l'agence Magnum. Koudelka dira qu'il n'est pas, qu'il n'est pas anglais, qu'il n'est pas tchèque, il se revendique comme étant apatride. Et ça va l'amener à avoir une vie faite d'errance, de voyage, de rencontres, et ça va donner lieu à deux ouvrages majeurs de la photographie, qui pour moi sont des monuments. Je pense qu'il y a deux livres qu'on doit avoir dans sa bibliothèque, c'est ces deux-là. C'est Les Gitans et Exil. Alors la première photographie qu'on a à l'écran, c'est une photographie extraite de Exil qui a été prise à Versailles. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant chez Koudelka, c'est qu'il cherche jamais le sensationnel. Il cherche à documenter le lieu. Alors, il y a ce chien là, il y a quelque chose d'un peu apocalyptique. Mmh. Mais ce qui est important chez Koudelka et dans toute sa photographie, c'est l'ambiance, le moment. C'est un espèce d'instantané du lieu, et donc on voit pas que c'est Versailles, enfin sauf si on connaît très très bien Versailles. Et il va documenter comme ça ses errances, ses voyages, ses exils. Et sur la photo suivante, donc avec cet homme, avec ce cheval qui est extrait de l'ouvrage Gitan. Il nous montre la complicité qu'il y a entre ce gitan et son cheval, ce lien qui unit ces deux personnages. Et Koudelka va beaucoup s'attarder à ça, hein, sur le lien entre les hommes avec les animaux, et surtout les animaux des gitans, les chiens, les chevaux. Et donc, il y a une vraie humanité. Hein. C'est pour moi une sorte d'éloge du vagabondage, de la rencontre, et puis de l'exil, parce que Koudelka passe sa vie en exil. Hein. Il a pu retourner en Tchécoslovaquie une fois que le mur de Berlin est tombé, que les républiques socialistes de l'Est ont disparu. Mais finalement, la majeure partie de sa vie s'est faite en exil. Alors, Koudelka, moi j'ai une petite phrase de Koudelka que j'aime beaucoup, ouais, qui je pense doit servir un peu de base à chaque photographe. Je n'ai jamais vu de héros dans ma vie ou en photo. Je me suis contenté de voyager, regarder, et tout m'influence. Mmh. Et je crois que c'est ça, hein, c'est toute la différence chez Koudelka entre le voyage et le tourisme. Pour moi, Frédéric, le voyage, c'est la rencontre avec un lieu, avec ses habitants. C'est prendre son temps pour apprendre les uns, les autres. Le tourisme, c'est aller loin, vite, galoper d'un monument à un autre, prendre des milliers de clichés, et puis finalement rentrer et se dire « mais qu'est-ce que j'ai vu ?» Qu'est-ce que je retiens ? Et en fait, on retient peut-être pas grand-chose. Et ça m'amène à... Alors, c'est pas la conclusion, mais à une idée que je trouve très importante. Je peux inviter tous les auditeurs à se pencher aussi sur les livres et les photographies de Nicolas Bouvier. Alors, Nicolas Bouvier, c'est un auteur suisse qui a écrit L'usage du monde, qui relate son voyage de France. Alors, il est parti en France, hein, même s'il est suisse, jusqu'en Iran en voiture, et il a fait ça en 1953. Et c'est un livre magnifique, et je crois qu'il est fondamental de lire sur le voyage. Hein. Je dis Bouvier, mais ça peut être Tesson ou d'autres, pour bien photographier nos propres voyages. Et Bouvier, notamment dans sa relation à l'autre, c'est une vraie leçon de voyage et d'humanité, ce livre. Donc, l'usage du monde. Mais il doit être dans le chat, j'imagine.
Oui, on a mis toutes les références. Sylvain a mis toutes les références dans le chat. Sur l'ailleurs, il y a la découverte d'un lieu. On l'a vu avec Claudine Doury, l'exil. Tu vas maintenant nous montrer, je trouve ça passionnant, que le voyage peut aussi s'apparenter à une quête mémoriale.
Oui, ça va être la dernière photographe que je vais vous présenter. On peut voir le voyage aussi comme un retour sur le passé, une plongée dans la mémoire personnelle. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du travail de la sociologue, écrivaine et photographe Irène Jonas. Irène Jonas, elle est née à la fin des années 50 d'un père qui était juif. Et elle a donc, d'une certaine manière, porté le poids d'une histoire qui était récente. Hein, 1950, c'est la Shoah, qu'elle n'a pourtant pas vécue. Elle est née après la guerre. Et donc, elle a décidé, entre 2018 et 2020, de voyager dans des lieux de mémoire en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, mémoire liée forcément à la Shoah, qui sont devenus entre-temps des lieux de tourisme, hein, paradoxalement. Et donc, dans ces images, elle gomme toute temporalité en peignant ses propres photographies. C'est-à-dire qu'elle fait une prise de vue et par-dessus, chaque image donc devient unique, elle peint ses images à l'huile. Et donc, ça donne cet aspect un peu intemporel, un peu comme si une photo colorisée, on ne sait pas trop. Et ça gomme le risque de faire des photos qui pourraient être, entre guillemets, touristiques, même si je n'aime pas ce mot rapporté à Irène, que je connais par ailleurs et qui n'est pas du tout dans le tourisme. Hein. Donc, voilà. Donc, on est dans vraiment une autre dimension de la photographie de voyage. On revient sur le passé, on revient sur son propre passé. C'est, j'allais dire, une photo qui permet aussi, quelque part, de se connaître mieux.
Ouais. Ben voilà. Écoute, je trouve que c'est une très jolie ouverture. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette chronique.